Vous écoutez RTL.
8h59 sur RTL, excellente journée à tous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Et dans un instant, un très joli cadeau au 3210, puisque nous vous offrirons des places pour assister en VIP à la cérémonie des Césars qui aura lieu le 24 février à la salle Payel à Paris. On en profitera pour entendre, bien entendu, quelques talents en lice au micro de Stéphane Boutsock. À suivre, les confidences de M. Pokora avec Isabelle Morini-Bosque. Ce soir à 21h sur M6, on suivra le chanteur dans l'émission d'aventure à l'état sauvage, tournée cette fois-ci au Sri Lanka. France 2, de son côté, continue de tester de nouveaux concepts pour ces après-midi. Laurent Marsic nous emmènera en avant-première sur le tournage de Chérie, c'est moi le chef, une nouvelle émission de cuisine qu'on découvrira d'ici à la fin du mois. Et puis, tenue correcte exigée quand le vêtement fait scandale, c'est le thème de la formidable exposition qui se tient actuellement au Musée parisien des arts décoratifs, de la robe de cour sous Louis XIV à la collection SDF de Galliano pour Dior qui avait fait scandale. Monique Younes a vu tout cela pour nous par le menu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais tout d'abord, les États-Unis pour retrouver notre correspondant, le correspondant d'RTL. Bonjour Philippe Corbet.
Oui, bonjour à tous.
C'est à Houston, au Texas, que s'est déroulé cette nuit l'événement sportif et télévisuel le plus important de l'année. La finale du Super Bowl avec une victoire incroyable des New England Patriots. Mais ce n'est pas de cela dont vous allez nous parler, Philippe, mais
non.
Du spectacle. De la mi-temps assurée cette année par Lady Gaga, qui était particulièrement attendue compte tenu du contexte politique très tendu.
Oui, elle avait manifesté contre Trump en bas de la Trump Tower la nuit de l'élection. Alors, est-ce qu'elle allait profiter de cette exposition maximale? 110 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis pour s'adresser directement au président qui était devant la télé. Beaucoup de ses fans l'espéraient, mais une bonne partie de l'Amérique était prête à lui tomber dessus si elle transformait le Super Bowl en tribune politique anti-Trump. Alors, sans jamais citer son nom, Lady Gaga a été assez astucieuse. Alors le show commence sur le toit du stade. Quelques notes de God Bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Puis très vite, une chanson qu'on entend beaucoup dans les rassemblements anti-Trump. This land is your land. Cette terre est votre terre. C'est une ballade folk de Woody Guthrie, un hymne à l'ouverture qui prend un sens très particulier en pleine polémique sur l'accueil des immigrés. Une nation... indivisible, liberté et justice pour tous. Dans le ciel de Houston, des centaines d'étoiles bleues et rouges, la gauche et la droite, qui peu à peu forment un drapeau, l'Amérique déchirée se rassemble. Pour une fois, ce n'est pas Donald Trump qui a tweeté son commentaire sur ce moment de télévision, mais Hillary Clinton, elle écrit que ce message de la Lady l'a rendue gaga. Ensuite, on a vu la chanteuse accrochée à un câble, sauter du toit dans le stade et enchaîner les chorégraphies sur ses plus grands titres, de Bad Romance à Just Dance. Ouais.fr, 13 minutes époustouflantes, les centaines d'étoiles dont je vous parlais à l'instant, c'était en fait des drones. À mon avis, c'était le meilleur show de mi-temps du Super Bowl depuis Beyoncé en 2013. Et c'est une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent sa tournée mondiale. Elle pourrait annoncer les dates dès aujourd'hui. Comme dit Hillary Clinton, la Lady est toujours gaga.
En tout cas, on a bien compris, le lien vidéo, vous l'avez placé sur RTL.fr. 13 minutes vraiment passionnantes. Merci, on a passé un excellent moment avec vous. Au-delà de la politique, elle continue de chanter divinement bien.
Ah oui, mais elle chante très bien, elle joue au piano. Il y a un moment au piano qui est extraordinaire, presque intime, dans une salle, dans un stade avec 110 millions de téléspectateurs. Elle joue au piano, c'est incroyable.
Merci beaucoup, Philippe Corbet, de nous avoir fait, bien entendu, partager ces moments tout à fait particuliers. Je rappelle que vous êtes le correspondant aux États-Unis d'RTL. On va passer maintenant au cinéma et à ses célébrations. Dans moins de trois semaines, le vendredi 24 février, très exactement, aura donc lieu la 42e cérémonie des Césars avec RTL, partenaire de Canal+, pour cet événement. Ce week-end avait lieu le traditionnel déjeuner dénommé au restaurant Le Fouquet's sur les Champs-Élysées. À Paris, bien entendu, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Et vous faisiez partie des convives.
Convives réunis autour notamment d'un dos de cabillaud poché sur lit de purée de potimarron et rillettes de haddock. Je vous ai fait un petit doggy bag de garde au frais depuis samedi, je vous les donne juste après l'émission. Voilà. Déjeuner durant lequel a bien été confirmé ce que je vous laissais entendre depuis 10 jours. Il n'y aura pas cette année de président ou de présidente suite au renoncement de Roman Polanski. Les nommés présents ont reçu leur certificat officiel. Sur les 177 noms qui concourront le 24 février, quelques-uns, je dis bien quelques-uns, avaient fait le déplacement, notamment Marina Foïs, nommée dans la catégorie meilleure actrice pour le film Irréprochable.
Eh bien, ça se passe très bien. Je suis à une table, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Il y a Omar Sy, il y a Nicole Garcia, Laurent Lafitte, Félix Moati.
C'était pas une question de choix, donc.
Ah non, je n'ai pas choisi ma table. Je vous confirme, c'est un déjeuner placé. C'est en même temps un peu humiliant, mais touchant.
Alors, Laurent Lafitte à cette table. En lice, lui, pour le César du meilleur second rôle masculin dans le film Elle de Paul Verhoeven. Près de 700 000 entrées en France à ce jour. 11 nominations totales chez nous. Et celle, on le rappelle, d'Isabelle Huppert pour l'Oscar de la meilleure actrice. Pour Laurent Lafitte, c'est l'occasion de soigner aussi une petite blessure d'ego.
Je suis très heureux. En plus, moi, souvent, j'ai eu des films qui étaient... auxquels j'avais participé qui recevaient beaucoup de nominations et pas moi. Donc, je commençais à me faire une petite parano d'acteur, donc là je suis rassuré. Non mais je suis surtout heureux que le film ait été vu par autant de gens, qu'il ait cet accueil dans le monde entier, ce qui n'était pas évident en plus parce que c'est un sujet quand même très sombre. C'est un film qui se regarde très facilement mais qui s'accepte plus difficilement quand même. C'est des situations assez tordues et que ça trouve un écho aussi large, je trouve ça rassurant. Rassurant dans ce que ça raconte par rapport aux attentes des spectateurs et jusqu'où on peut les emmener. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'être audacieux. Je pense que tout le monde attend de l'audace.
Laurent Lafitte, alors si je vous ai bien suivi, Stéphane, et je sais que je vous ai bien suivi,
j'espère.
À cette table d'honneur du déjeuner dénommé, se trouvait également Omar Sy.
5 ans après avoir reçu le titre du meilleur comédien pour Intouchable, Omar sera cette fois en lice pour le rôle du clown Chocolat, dans Chocolat, le film de Roche Dizem, sorti il y a tout juste un an. Mm-hmm. Preuve qu'au succès public du film s'est ajoutée la reconnaissance du métier.
Une nouvelle nomination, c'est quelque chose d'énorme, presque d'inespéré pour moi, vraiment j'y pensais même pas. Encore moins pour ce film-là, parce que effectivement, quelques mois, mais ça fait un an en fait. Ça fait un an que ce film-là est sorti, donc c'est vrai, ça veut dire que le métier n'a pas oublié. Et surtout qu'il a été vu et remarqué, et surtout pour l'histoire qu'on raconte. Et l'envie de faire ce film qui était l'envie effectivement de faire un bon film, mais aussi de réhabiliter la mémoire de Raphaël Padilla et du travail qu'il a fait avec Footit. Donc on avait envie de faire ça, et le fait que le film soit là au César, et pas qu'une fois en plus, c'est une vraie victoire pour nous tous et on est très contents.
Alors, juste à côté de Marge, j'ai ensuite rejoint Nicole Garcia, dont le film Mal de Pierre est notamment nommé dans la catégorie les catégories reines du meilleur film et du meilleur réalisateur, en tous les cas actrice, en ce qui la concerne, réalisatrice. Après 11 nominations et un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 80, c'est touchant d'entendre que faire partie des finalistes en 2017 est toujours aussi émouvant pour elle.
C'est un peu la reconnaissance du milieu, de vos pères. Et on sait à quel point ça va être un regard biaisé, on sait à quel point c'est un regard qui n'est pas le même que celui du public. Il y a des écoles, il y a des gens qu'on dit encartés, que la presse aime tout le temps, d'autres qui le sont moins. Donc ce n'est pas l'accueil aussi simple d'un public. Donc quand ce milieu-là plutôt donne 8 nominations, ça veut dire que ça met une lumière sur le film qui m'a beaucoup touché. C'est donc quelque chose que je vis comme une reconnaissance. Donc, même si on dit que non, même si on joue les indifférentes, bah, ça fait quand même bigrement plaisir.
Ouais, elle est sincère, cette Nicole Garcia. Alors, moi, j'ai quand même 2 questions, Stéphane. Voilà. Que fait-on d'un César? Et comment doit-on s'habiller pour la cérémonie?
Alors, ça tombe bien, je les ai posées lors de ce déjeuner. Pour l'aspect vestimentaire, dirons-nous des choses, c'est Marina Foïs qui répond et on comprend qu'il ne faut pas plaisanter avec le sujet.
La tenue, je rigole pas, mais du tout, mais pas du tout. J'ai déjà fait un fitting, on dit un fitting, hier et j'en referai un dans 10 jours. Ah non, la tenue, c'est très très important. Le reste, avoir le César, tout ça est très secondaire. Si on a une belle robe, on peut rater un César de manière digne et si on est mal fringué... la soirée est foutue et il vaut mieux pas l'avoir si on est mal habillé.
Et quant à savoir ce que l'on...
Hein, je vous signale.
Exactement. Quant à savoir ce que l'on fait de son César après l'avoir reçu, bah écoutez, Omar Sy.
Il est chez moi et je m'arrange pour avoir un regard sur lui une fois par jour. Il est sur un trajet que je fais tous les jours quand je suis à la maison.
Il est donc aux
toilettes. Non, sinon je le verrai plus souvent.
Précision importante. Hein.
Oui.
Vous pourrez retrouver toutes les images de ce déjeuner dénommé au César 2017 sur notre site internet rtl.fr.
Bien sûr. Et alors, cadeau, comment dirais-je, prestigieux peut-être ce matin.
On peut le dire.
Nous vous offrons, on peut le dire, 2 places pour assister en VIP au milieu des stars de cinéma à la 42e cérémonie des Césars. Ce sera donc le 24 février, salle Payel à Paris. Et pour gagner ce précieux sésame, il faut répondre à la question que vous posez immédiatement. immédiatement Stéphane.
Omar Sy est nommé dans la catégorie meilleur acteur cette année, mais pour quel film ?
Réponse au 32-10. J'ajoute qu'RTL vous proposera une soirée exceptionnelle le 24 février de 20h à minuit en direct de la salle Payel pour ses Césars 2017 en partenariat avec Canal+. Stéphane, vous serez donc en direct avec Vincent Perrault, oui. Dominique Besnéard, le réalisateur Patrice Lecomte et Laurent Marsic pour ne rien faire rater de l'événement, du tapis rouge au palmarès avec en direct les réactions des vainqueurs et des stars invités, notamment George Clooney, oui. À qui on remettra un César d'honneur. Si avec ça, ça vous donne pas envie d'écouter RTL. Bah voilà, hein, on est bien d'accord. Allez, on se retrouve dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Suspense à 9h10, puisque nous allons faire un point sur nos audiences télévisées du week-end avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, victoire éclatante des Polars ce week-end. La 2 et Chérif devance nettement TF1 et sa bonne émission de magie vendredi. 4 600 000 fidèles contre 3 400 000 curieux. Samedi, c'est la rediffusion de Meurtre à Dunkerque sur la 3 qui l'a emporté nettement devant le grand show de l'humour de la 2. 1 030 000 téléspectateurs d'écart. Quant ailleurs, bah, c'est là, sans surprise, la planète des singes qui est en tête. 4 millions de téléspectateurs devant encore un Polar, celui de la 3. On note aussi avec 5 100 000 téléspectateurs le succès du match Angleterre-France samedi après-midi sur la 2. Comme quoi, savoir saisir la balle au bon à la télé comme au rugby, il n'y a que ça de vrai. Et puis succès du Super Bowl quand même, 326 000 téléspectateurs sur W9 cette nuit, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Oui.
Alors, on va passer maintenant à notre soirée d'élèves d'aujourd'hui. On signale sur TF1 le démarrage de Ennemi Public.
Oui, passionnant feuilleton en 10 épisodes inspiré de l'affaire du trou. On en reparle lundi prochain, c'est un coup au cœur, mais cette fiction, j'en parlerai lundi parce qu'aujourd'hui, je préfère privilégier un coup de cœur.
Oui, votre coup de cœur, on le retrouve sur M6 avec l'émission À l'état sauvage, Matt Pokora, parti dans la jungle sri-lankaise avec l'explorateur Mike Horn.
Oui, il n'est pas parti voir Alexandrie avec Alexandra. Il s'est immergé durant 5 jours avec l'explorateur Mike Horn au Sri Lanka. Matt Pokora, il croyait que la jungle du showbiz, c'était la plus dangereuse. Il découvre que la vraie, c'est franchement pas ça non plus et c'est passionnant de suivre. D'abord, il y a la beauté des images, puis de suivre son évolution dans cette zone où chaque pas peut être un faux pas. Au début, absolument passionnant, il croit que bah, le psychique, ça vaut le physique.
C'est dans la tête. À partir de maintenant, tout est dans la tête.
Ben non, c'est dans les pieds aussi, surtout quand les sangsues lui sucent le sang, entre autres. Et puis du coup, ben, très rapidement, le ton change.
J'ai des nausées, c'est horrible. Combien on a marché, là ?
4 kilomètres.
Ben non, c'est pas possible.
Ah ouais, ouais.
C'est pas du tourisme. Je suis en enfer, vraiment.
Ensuite, de ravin en grimpette, ça s'empire, et bientôt, c'est Mike qui franchit un cap. Horn, bien sûr.
Je croyais que j'avais fini hier soir avec ces merdes de descente, là. Putain, Mike, s'il te plaît, là.
Matt, putain, tu es une pro. Arrête de pleurer, tu t'aides pas. La vie, c'est pas toujours 30 000 personnes qui disent bravo, bravo, bravo. Qui tu es vraiment ? Quelqu'un qui pleure pour chaque pas ? On a fait une demi-heure de marche. Une demi-heure ? Putain, accroche-toi. Trouve du plaisir aussi dans l'effort. On va ensemble, on pleure pas.
Voilà, Michael Young, qui avait fait le premier à l'état sauvage, avait dit à Matt Pokora avant son départ, tu vas en baver, mais vivre une aventure qui va te changer. Mais Michael Young, lui, il avait un humour énergétique, si j'ose dire, féroce, qui l'aidait à survivre. Matt Pokora, lui, comment dire, était plus désarmé, comme je l'ai fait remarquer.
Ouais, j'étais désarmé un peu plus des premières 24 heures. J'étais déstabilisé parce que je me reconnaissais pas. Cet effort-là, je le comprenais pas. Je me suis jamais entraîné pour ça, pour grimper avec 20 kilos sur le dos, 100% de taux d'humidité, sans manger, sans boire. Ma mécanique était pas entraînée pour ça, donc je me suis pas reconnu et c'est ça qui m'a énormément frustré et dérangé sur les premières 24 heures. C'est pour ça que je suis bougon, plutôt de mauvais poil. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me reconnais pas, quoi.
Et à un moment donné, il vous engueule vraiment comme un petit garçon. Vous le regardez avec des grands yeux, on a l'impression que vous emmagasinez tout ce qu'il vous dit.
Ouais, ben à ce moment-là, je réagis comme un sportif à me dire, voilà, j'ai quelqu'un au-dessus qui s'appelle Mike Horn, qui a toutes les clés pour que je puisse réussir cette aventure. Donc je me mets dans ma position quand je suis sur la préparation de mes spectacles. Je suis un capitaine de bateau et je me dis à ce moment-là, ben lui, là, il est dans son élément. Si je l'écoute pas, je n'irai pas jusqu'au bout. Comme un enfant qui apprend quelque chose, j'ouvre les yeux, j'emmagasine le truc et là, je me lève et c'était parti, quoi. C'était notre aventure.
Mais alors, sans pipoter, est-ce que c'est une aventure de nature à pouvoir vous aider à l'avenir dans votre travail, Matt Pokora ?
Alors, je pense qu'au moment voulu, oui. Depuis, je ne me suis pas retrouvé dans des conditions extrêmes en préparation d'un spectacle où je dois faire une journée de 15 heures, que ça arrivera dans quelques mois. Mais aujourd'hui, dans mes entraînements, j'arrive beaucoup plus à repousser mes limites qu'auparavant. Et psychologiquement, dans toutes les difficultés, il va falloir mettre un coup de gaz au moment où on pense ne plus rien avoir sous le pied. Là, je vais complètement me souvenir de ces moments-là. J'ai jamais été un feignant, mais dans la jungle, c'est pas pour rien qu'on dit c'est la jungle, que c'est des conditions extrêmes. C'est la nature qui décide le matin si elle va te donner à manger ou pas. Tu es maître de rien au final. Elle va te dire, ce soir, on va te mettre une pluie sur la tronche quand tu seras en train de dormir. Demain, t'auras pas à manger, etc. On a plus ce qu'on veut quand on veut, ça c'est sûr.
Alors, si vous aviez déclaré forfait, vous seriez passé pour Chochop, mais là, du coup, c'est quand même bon pour l'image de marque et la pub. L'image de marque et de maths, non?
Bah en fait, à ce moment-là, je ne me suis pas dit ça parce que c'était en début d'année 2016, donc j'étais complètement en break, off média, j'ai envie de dire. Je me suis dit, ça fait 13 ans que je fais ce métier, toujours disponible pour le public, et j'ai décidé de le faire vraiment pour moi. Et à ce moment-là, je ne me suis pas posé la question de savoir comment les gens vont me percevoir. Et honnêtement, quand on est dans la difficulté comme ça, le cadet de nos soucis, c'est de penser à comment vont regarder les gens qui vont être devant leurs écrans. On n'y pense pas du tout, quoi.
Alors, c'est évidemment plus rempli d'images que de nourriture, et on recommande à ses fans la dernière d'image. Le plongeon à 20 mètres de haut, c'est plus efficace encore sur les fans que les reprises de Clo-Clo, non?
Enfin, j'espère, mais en tout cas, c'est vrai que même moi, de la revoir, ça me donne les mains moites, quoi. C'est un moment extraordinaire et je crois que ça résume bien toute l'aventure, juste ce saut final, quoi. Le dépassement de soi, la confiance en l'autre, et le stress, la tension et en même temps, voilà, la liberté.
Petite question de base, vous avez perdu du poids et combien?
En 5 jours, j'ai perdu 4 kilos. Et bah, j'ai pas grand chose à perdre, sans prétention aucune, mais là en fait on mange tellement rien, on a mangé un petit poisson, 2-3 bigorneaux en 5 jours, en faisant les efforts physiques qu'on a fait et le taux d'humidité, voilà, on perd beaucoup.
Oh, c'est vraiment une excellente émission que j'aime beaucoup. Mais donc 20h55 M6, on le mate pour courir.
Ils emmènent pas d'eau et pas de nourriture, ils trouvent tout sur place?
Non, ils trouvent tout sur place. La condition, c'est absolument rien, on n'emporte rien. Et les équipes techniques n'ont absolument pas le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'elles font leur petit frichti, elles vont, elles viennent, elles prennent des raccourcis, elles filment, mais elles n'interviennent pas.
Un bigorneau et au lit.
Bah oui.
Allez. Comme ça, au lit sous la pluie.
Allez, on va continuer. Il n'est pas tatoué, Mike Horn?
Non, Mike Horn, lui, non. C'est un vrai, un dur. Il a des avant-bras, je ne vous dis que ça.
Ah, bah, arrêtez. Nous continuons à parler télévision. France 2, elle, continue à tester de nouveaux concepts pour ses fins d'après-midi. Alors, à la fin du mois, une nouvelle émission de cuisine débarque à l'antenne. Son nom, c'est Chérie, c'est moi le chef. Et elle sera diffusée en alternance avec un chef dans l'oreillette, Kenny Mélodie Gossuin, Laurent Marcy, que vous avez pu suivre en avant-première, le tournage de cette nouvelle émission.
Oui, puis alors eux, ils font pas cuisiner des bigorneaux. Hein. C'est même un jeu à mourir de rire, puisqu'il y a 1 000 euros à la clé. Le concept des couples doivent donc reproduire un plat. Madame ou monsieur est à l'oreillette, et madame ou monsieur au fourneau, ou l'inverse. Au début, il y a donc un chef, Grégory Cohen, qui explique la recette à celles ou ceux qui donneront les ordres, et il laisse la liste des ingrédients avec les proportions.
Aujourd'hui, vos maris vont devoir cuisiner un plat familial pour 4 personnes. Il va s'agir d'un roulé de veau farci aux champignons, accompagné de croquettes de pommes de terre et évidemment une sauce.
Les trois épouses sont ensuite installées chacune dans une salle. Elles sont seules, filmées, micro-casque sur les oreilles, écran face à elles. Elles vont devoir guider leur mari qui est sur un autre plateau et qui doit donc réaliser un plat qu'il n'a jamais vu. Elles sont vraiment seules. La caméra est automatique. Du coup, bah elles se lâchent beaucoup plus facilement.
Dépêche-toi, cours, s'il te plaît. On arrive. 20 minutes.
20 minutes.
T'as même pas fait la sauce ni les poireaux frits, dis. C'est une blague.
Eh, j'en peux rien, hein, dis-moi.
Si, t'en peux, c'est pas moi qui suis derrière les fourneaux. Alors dépêche-toi. Dépêche-toi.
Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait ça joue autant sur la cuisine que sur les relations de couple.
Eh hey Christelle, tu me donnes des infos, tu me les donnes à moitié, tu me donnes... Non mais rigole pas.
Écoute un peu là, je suis en train d'essayer de t'aiguiller au max là et toi t'écoutes pas. Bon, hey, tu vas pas me faire un saucisson là?
Ça, c'est le buzzer. Quand celui ou celle qui cuisine craque, il s'offre 1 minute de silence sans madame.
Du silence. Ça va durer qu'une minute et je crois que ça va faire du bien.
Ah oui. Et la cuisine, tout ça?
Ah bah, elle est en filigrane hein, tout du long. Il y a une recette à faire quand même, dont on voit les étapes. Et le chef, Grégory Cohen, qui vient apporter ses conseils, non pas aux candidats, mais à nous, téléspectateurs. On n'est pas dans la cuisine gastronomique, hein. On fait simple. Tout le monde doit pouvoir reproduire la recette. Grégory Cohen.
On fait de la vraie cuisine pour des vrais gens. On partage, on leur donne des astuces, on leur donne des trucs, on leur donne des clés. Et après, ils sont capables de refaire les plats. C'est pas quelque chose qui a été réinventé, retravaillé, recherché, C'est quelque chose de la vie de tous les jours. Et c'est ça que j'ai aimé.
Et le tournage est en fait une vraie usine. Ce n'est pas un, mais 7 plateaux qui ont été installés. 5 émissions tournées en même temps. Hervé Hubert, le producteur.
Là, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a la phase de cuisine d'une émission qui est en cours. Vous avez parallèlement sur un autre plateau la dégustation de l'émission précédente. Vous avez parallèlement à ça la fabrication du plat de l'émission suivante que le chef va présenter. Et vous avez un autre plateau sur lequel les candidats de l'émission d'après vont se présenter pour faire des petits portraits et des présentations. Et vous avez enfin un dernier plateau dans lequel le chef, lui, va donner des conseils tout à l'heure de l'émission précédente.
Ils ont un mur d'images. C'est impressionnant. Au bout d'une heure, dégustation à l'aveugle. Chaque épouse, quand elle donnait les ordres, goûte. Et évidemment, je vous le donne en mille. Parfois, elle préfère le plat d'un autre sans le savoir.
Bah oui. Alors ça, c'est mauvais. Un emplâtre.
Mais on est toujours trahi par les siennes.
Il n'y a pas de pommes de terre. Il y a de la farine et de la panure.
C'est mauvais.
Alors, qui anime ça, dites donc?
personne. Une voix off qui nous accompagne et qui nous raconte. Le chef donne ses conseils et c'est tout. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ça arrive donc à la fin du mois pour 6 semaines. Et puis on retrouvera un chef dans l'oreillette avec l'éducation. Et normalement, ils doivent alterner les deux ensemble.
Voilà. Et ben voilà. Dans quelques instants, rendez-vous avec Monique Younes. Non sans que j'aie remercié Laurent Marsic. Elle va nous emmener au Musée des Arts Décoratifs pour une exposition passionnante intitulée « Tenue correcte exigée ». Vous aurez peut-être vu de quoi il s'agit.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
À 9h21, je vous souhaite une excellente journée. Et merci. Je dis à Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Monique, vous nous emmenez ce matin au Musée des Arts Décoratifs à Paris, où l'exposition « Tenue correcte exigée » fait un tabac, à juste titre, m'avez-vous dit.
Oui, c'est l'exposition de mode la plus passionnante que j'ai vue à ce jour. On y découvre tous les vêtements qui ont fait scandale du 14e siècle à nos jours.
Par exemple.
Prenez le cas des escarpins. Mmh. Aujourd'hui, une femme en talons de 7 cm passe inaperçue. Tandis que dans les années 20, porter des escarpins à talons constituait une provocation considérable, m'a expliqué le commissaire de l'exposition, Denis Brunat, devant une des vitrines de l'exposition consacrée aux chaussures.
Les années 20, il se passe une chose, c'est que jamais les robes des femmes n'ont été aussi courtes. Depuis le Moyen-Âge jusqu'en 1920, les jambes des femmes avaient été dissimulées sous les jupons et sous les robes, et tellement dissimulées qu'on ne voyait parfois que la pointe de la chaussure. Et en 1920, les robes deviennent courtes, c'est-à-dire au niveau du genou. Par conséquent, on va voir les jambes qui vont être couvertes de bas et jamais on n'aura autant vu de chaussures, si bien que les fabricants de chaussures vont beaucoup travailler sur la couleur, sur les brillances et sur le talon. Et il y a eu beaucoup de critiques à l'égard de ces chaussures trop visibles et de ces talons qui étaient considérés à l'époque comme trop hauts.
Et jusqu'au XVIIIe siècle, on apprend que les chaussures à talons étaient réservées aux hommes.
Mais oui, madame.
Souvenez-vous du portrait de Louis XIV par Rigaud, le roi soleil est peint avec des souliers magnifiques à talons rouges.
Alors moi j'adore ça, mais il n'y a pas que des chaussures dans cette exposition.
Ben non, il est aussi question de maquillage, imaginez-vous. Et ceux qui ne le savaient pas encore apprendront que les hommes se sont longtemps maquillés, autant que les femmes, et qu'ils ont porté des jupes et des robes. Ça ne faisait pas du tout scandale à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on imagine mal l'hologramme de M. Mélenchon apparaître en tailleur Chanel. Plusieurs couturiers comme Gautier, Westwood, Yamamoto ont bien tenté de relancer la mode des jupes pour hommes, ça n'a pas pris, pas encore.
Alors que nous avons vu une femme ministre entrer à l'Assemblée en pantalon.
Et oui, vous vous souvenez du scandale que cela a fait, on a pu voir jusqu'où allait le machisme et le conservatisme des hommes politiques. Vous savez, c'est après la révolution de 1789 que les femmes ont commencé à emprunter aux hommes les chapeaux de feutre et les vestes à boutons. Mais en 1800, le préfet de police, considérant ces tenues comme un travestissement sexuel, les a interdites par ordonnance, qu'a retrouvé et qu'expose Denis Brunat.
C'était très mal vu, quasiment jusqu'au 19e siècle, des boutons sur un vêtement de femme, parce qu'on disait que ainsi le vêtement pouvait être déboutonné, on pouvait avoir accès plus facilement au corps avec des boutons qu'avec des lassages. Et bien sûr, le vêtement le plus emblématique que les femmes ont pris aux hommes, c'est le pantalon. Et c'est-à-dire que le pantalon féminin a progressivement entré dans les mœurs par justement le sport, par la détente. Progressivement, il va grignoter d'autres domaines comme la soirée. Par exemple, dans les soirées, dans les années 1910, avec le goût pour l'orientalisme, on voit ces pantalons très larges qui rappellent un peu l'Orient, un peu la Turquie. Mais le véritable pantalon féminin, c'est les années 60 avec Courrèges, Yves Saint Laurent, dont une vitrine entière lui est consacrée avec son smoking pour femme de 1966. Et puis, ça c'est vraiment une pièce exceptionnelle qui nous a été prêtée par la Cinémathèque de Berlin. C'est le smoking, l'habit que Marlène Dietrich a porté dans le film Cœur brûlé en 1930.
Et Marlène Dietrich, en 1933, il faut se souvenir, s'est vue refuser l'entrée d'un restaurant parisien parce qu'elle portait un pantalon. Alors, autre pièce clé de l'exposition, la robe très, très, très échancrée que portait Mireille Darc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Oui, elle fut imaginée par Guy Laroche en 1973. Et elle rivalise avec le décolleté de la robe noire portée par Lady Diana en 1981 au Goldsmiths Hall, juste avant d'épouser le prince Charles.
Alors là aussi, very big scandale.
Ah, very, very, very. Une affaire d'État. Le standard du palais de Buckingham avait, paraît-il, sauté du jamais vu. Et les Britanniques ont longtemps reproché à leur princesse cet irrespect des tabous. Mm-hmm. Donc, tenue correcte exigée, les soirs de mariage. Et cette robe est exposée face à un pantalon de cuir moulant datant du 19e siècle. Là aussi, il suffit de le voir pour comprendre le scandale.
Où ces pantalons sont en peau, couleur chair. En étant très moulante, on voyait tous les détails, je dis bien tous les détails de l'anatomie masculine. Et on oublie par exemple que pour ces culottes que voilà, beaucoup d'hommes de la bonne bourgeoisie française, européenne ont porté, deux papes, Pie VI et Pie VII, sont intervenus pour tenter d'interdire le port de ces pantalons.
Voilà. Non mais c'est merveilleux. Incroyable. Ces pantalons-là, il faut les voir. Alors plus proche de nous, il y a eu des collections de haute couture qui ont créé quelques remous, comme le défilé Clochard de John Galliano en 2000 pour Dior, qui a eu droit à des manifestations avenue Montaigne, et puis le défilé Sphinx de Rick Owen en 2015 avec ses tuniques pour hommes échancrées au niveau du bas-ventre.
Ah bon, on voyait tout, je me souviens très
voilà,
bien.
Voilà, c'était ça, magnifique. Voilà. Alors vous les verrez exposés au musée des arts décoratifs, les tuniques et les bijoux de famille.
Bon alors, le dernier grand scandale vestimentaire, finalement, c'est quoi, Monique?
Enfin, souvenez-vous, vous avez la mémoire courte, le burkini, grand scandale de l'été dernier. Ici et ailleurs, avant et demain, l'habit nous définit. Cela a commencé depuis ce jour où Ève et Adam ont été chassés du paradis à cause d'une pomme.
Ah bah ça, je me souviens. Bah, oui, quelle affaire.
Ah bah oui, tout notre malaise vestimentaire vient, paraît-il, de là. D'ailleurs, Ève et Adam vous accueilleront tout nus à l'entrée du musée des arts décoratifs pour cette exposition formidable intitulée « Tenue correcte exigée ».
Est-ce qu'une tenue correcte est exigée à l'entrée ?
Ben non, nous ne sommes pas au César, hein, Stéphane. Une dizaine d'euros suffit, c'est jusqu'au 1er avril. Si vous ne pouvez pas venir, le catalogue de l'exposition est une merveille. Et puis si vous êtes aux arts décoratifs, si vous prenez un pass, allez voir aussi l'esprit du Bauhaus, une autre exposition magnifique.
L'émission porte bien son nom, vous m'avez tenté. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller au milieu d'un parterre de stars, assister à la 42e cérémonie des Césars. Allez, à tout de suite.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Cher Stéphane, avant de retrouver Julien Courbet dans un instant, vous répondez à cette question. Omar Sy est nommé dans la catégorie meilleur acteur. Mais pour quel film à la cérémonie des Césars ?
Le film Chocolat.
Voilà. Et si vous nous avez appelé, eh bien, au 3210, vous avez gagné donc deux places pour participer à cette 42e et magnifique cérémonie du cinéma français. Merci à toute l'équipe. Et bien entendu, bienvenue et bonjour à Julien Courbet.